BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé et nous sommes sur le web, vous le savez, également à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Le programme de ce jeudi 4 avril 2024, c'est le retour des boursicoteurs. Oui, ils sont de retour. Les indices boursiers, enchaînent les records des deux côtés de l'Atlantique. Et donc nos boursicoteurs, eh bien, ils sont devenus plus agressifs dans leur manière d'investir que nous allons détricoter, décortiquer avec Géraldine Métifeu d'Alterega, notre CGP du jour. À 10h30, votre dose d'économie avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du recul de l'actionnariat salarié. Pas forcément une bonne nouvelle pour votre épargne et votre capacité d'investissement. Côté bourse, depuis Euronext, Antoine est en train de se connecter. Nos deux traders aussi poursuivent la séance du jour dans le match des traders. BlackRock lance un ETF accessible à partir de 5 euros qui va permettre une exposition aux actions monde depuis votre PEA. L'équipe d'iShares sera avec nous dans 1h40 pour parler de cette offre spécifique au marché français à destination des Français. C'est assez rare pour BlackRock. Et on répondra à quelques-unes de vos questions avec cette équipe iShares. Avant cela, à 11h15, l'IMO, 50% des bureaux inoccupés en Europe. Comment blâmer les entreprises locataires ici chez nous quand c'est quasiment impossible d'anticiper la masse salariale exacte, vous savez, sur 9 ans lors d'une signature d'un bail. Donc si on voit trop grand, on est mal. Si on ne voit pas assez grand, on est mal aussi. Notre invité, Romain Alouche de Sora, a des idées pour résoudre ces problèmes. Et puis, dossier spécial avec nos confrères des Échos aujourd'hui, on parlera des jeunes, des étudiants en particulier, comment investir, comment se loger et comment emprunter. Vous nous envoyez vos questions, nous y répondons avec Marie-Christine Sonquin, la rédactrice en chef Patrimoine des Échos. C'est tout à l'heure à 11h30 dans vos oreilles et demain dans vos yeux en kiosque numérique ou physique dans les Échos. Au programme, il y a vous, vous le savez, c'est très simple. Vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je suis connectée, je lis vos messages pendant le direct. On répondra notamment à Adriane qui a une question sur les ETF indexés sur les marchés étrangers. Et puis à Bernard qui veut des exemples concrets d'ETF mid et small. À tout à l'heure pour des réponses. Pour l'heure, on part du côté d'Euronext, rejoindre Antoine.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, comme hier, c'est un peu le jour de la marmotte. Nous sommes dans un marché assez peu décidé.
Mais au moins une tendance haussière qui se dessine, hein, plus 0,26% à 8173 points pour l'indice parisien, au souhait d'Hervé, qui va éternuer encore. On est donc bien orienté hein, sur un marché globalement positif. Eurostox plus 0,25% en index à Francfort qui gagne 0,15%. Et encore une fois, du côté de Paris, dans un marché qui est toujours un petit peu ankylosé par les tensions sur l'obligataire. Vous savez, on a eu des chiffres de l'emploi privé américain hier qui étaient quand même supérieurs aux attentes. Donc, du coup, on a peur que la Fed ne déclenche pas le début de ces baisses de taux suffisamment tôt. On a aussi la prime de risque géopolitique. Alors ça, on est au-delà des 89 $ maintenant pour le baril de Brent de mer du Nord en route vers les 90, ça paraît clair. Les taux qui restent tendus, l'once d'or fin qui bat de nouveaux records absolus à 2330 $, hein, un petit peu plus tôt ce matin. Donc le marché reste quand même pesant. Mais voilà, on a aussi les valeurs cycliques qui signent un petit retour assez marqué après cette première heure de cotation, et notamment le secteur auto, Renault plus 2,52, on était à 49,29 €. Stellantis plus 1,24% à 25,33 €. On a le secteur bancaire aussi qui se dégage bien avec le Crédit Agricole plus 1,14, 14,22 et BNP Paribas plus 1,19, 67,32. À la baisse, Pernod Ricard qui subit un abaissement d'objectif de cours de la Deutsche Bank qui perd 0,8% à 145,50 €. Mmh. Téléperformance moins 29 à 88,44 € sur le SBF 120. C'est Solutions 30 qui signe la plus forte baisse, moins 9,1% à 2,09 €. C'est ICAP qui abaisse là son objectif de cours sur la valeur. valeurs. Puis à noter la hausse spectaculaire de Solvay qui gagne 6,5% à 28,44€. Le CAC 40, donc plus 0,28%, on est à 8176 points. Et l'euro se renforce en direction d'un 0,9 face au dollar. Il y a pas mal de volatilité sur la paire de change. On est à 1,0857 en ce moment, Lorraine.
Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve dans une heure pour votre histoire du jour et puis bien sûr pour refaire un point marché. C'est le moment du journal pour savoir ce qu'il faut bien maîtriser pour gérer vos finances aujourd'hui.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et votre rédactrice en chef, c'est Géraldine Métifeux ce matin. Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, Lorraine.
Associée gérante d'Alter Egal, l'œil de la CGP sur les actus financières du jour.
Oui.
On va parler de revenants.
Et oui, l'épargnant, l'actionnaire individuel.
Les boursicoteurs sont de retour.
Le boursicoteur, comme on l'a appelé, qu'on a connu dans les années 2000 et puis qu'on a un peu vu disparaître. Les boursicoteurs, ils sont de retour. En fait, finalement, Lorraine, depuis 2020, parce qu'ils ont eu quand même un peu de temps chez eux en télétravail ou en télé tout court.
Et un peu de cash.
Et ils avaient effectivement peu d'occasions de dépenser. Donc, ils ont retrouvé le goût des marchés financiers avec des points d'entrée qui étaient très intéressants. Et puis, on le sait, hein, ils ont eu deux années un peu plus compliquées, hein, parce que 2022, c'était quand même globalement extrêmement compliqué de sortir des sous, des gains et ainsi de suite. 2023, ça s'est dessiné sur la fin, on en a déjà parlé. Et donc, depuis 2024, sur le premier trimestre, on le dit pratiquement tous les jours, il y a des indices qui battent des records en permanence et qui sont très élevés. On a pratiquement 10% de gains à peu près partout, si ce n'est sur le Dow Jones. Mmh. Et donc, ça incite encore, et ça qui est rigolo, ça incite encore, malgré tout, les boursicoteurs à rester sur les marchés. Alors, c'est bien sûr un peu plus vrai aux États-Unis qu'en Europe, hein, ils ont toujours un goût un peu plus prononcé pour le risque aux États-Unis et pour l'épargne long terme qu'en Europe ou en France en particulier. Mais en tout cas, ça n'a pas échaudé les petits porteurs aux États-Unis. C'est un niveau très élevé. Et puis, ils ont pu aussi se positionner. Quand ils se positionnent sur des titres en direct, ils ont pu se positionner sur des titres dont on a beaucoup parlé partout, c'est-à-dire les Nvidia et ainsi de suite, où ils ont pris des pourcentages considérables. Mais là, on arrive un peu à un point de bascule, c'est-à-dire que on a déjà beaucoup pris sur le début de l'année. Est-ce qu'ils vont être absents ou pas sur le trimestre à venir? A priori, non. Alors, c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a une période un peu plus calme parce que là, ils vont payer leurs impôts, donc c'est, ça sèche un peu les fonds de caisse. Et puis, puisque les titres sont déjà pas mal monté, ceux qu'on voit, ceux qui grossissent, déforment les indices, ils vont avoir une préférence pour les ETF. Et là où c'est très étonnant, enfin vous en parlez peut-être avec BlackRock, mais avec les ETF à effet de levier, c'est-à-dire que j'ai envie quand même d'alerter quand même certains épargnants, attention. L'effet de levier, c'est bien quand ça gagne. C'est
ça,
un
permet
peu moins
de multiplier les gains, mais aussi les pertes, ce que vous nous dites.
Ça. Et donc, ça peut vite être un tout petit peu dangereux. Donc, s'il devait y avoir un retournement de marché, il y aura un effet amplificateur de leurs pertes qui risque de les décevoir un petit peu. Mais en tout cas, on n'est toujours pas échaudé sur les marchés financiers. C'est une bonne nouvelle.
Voilà, nos boursicoteurs sont de retour. Nous allons rester un petit peu aux États-Unis avec vous, puisque vous nous parlez du marché de l'emploi, qui n'a pas de problème de bras là-bas.
Non. Et non, et alors, c'est plus un sujet politique qu'économique, sans doute, mais en tout cas, c'est le sujet de l'immigration, parce que quand on a connu l'euphorie aux États-Unis, bon, également en Europe, mais là, on parle des États-Unis, l'euphorie de l'économie, d'une économie qu'on attendait encore aux alentours des 1 et quelques en début d'année, qui finalement, on va franchir probablement les 2 et quelques pourcents de croissance du PIB, encore une fois, en 2024, donc on est très très loin de la récession qu'on nous prédisait il y a 2 ans et demi, quand même, hein. On est même complètement à l'opposé, et on s'est posé la question, enfin, pas moi, mais les économistes se sont posé la question de savoir si on aurait assez de bras pour fournir toute cette demande, pour répondre à toute cette demande. Et oui, Jérôme Powell s'en est longuement expliqué, notamment sur la partie immigration venant en particulier du Mexique, même si ça posait problème, par exemple à New York, on a vu le maire de New York parfois réagir. En tout cas, cette main-d'œuvre a permis de soutenir cette demande et cette croissance US. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne manque pas de bras aux États-Unis. Alors, bien sûr, s'il devait y avoir un retournement, ce serait sans doute un peu plus compliqué à gérer, quoiqu'en même temps, ils ne gèrent pas tout à fait le chômage comme nous en Europe. Mais en tout cas, une des raisons qui peut soutenir la croissance aux États-Unis, c'est bien sûr cet emploi qui reste accessible aux employeurs.
Hausse de la participation des personnes de 25 à 54 ans au marché du travail. Un dernier mot, plutôt un petit coup de flou. Le flou juridique que vous relevez qui concerne les jeunes sociétés innovantes.
Oui, alors c'est vrai, quand on s'intéresse aux startups ou aux private equity, il y a souvent des idées assez brillantes, mais finalement elles sont toujours, où on peut s'interroger si elles ne sont pas un peu borderline avec l'environnement réglementaire, légal qui est le nôtre, en France et en Europe, qui est particulièrement contraint, on le sait. Eh bien, il y a une cellule interministérielle à Matignon que j'ai personnellement découverte très récemment, qui s'appelle France Expérimentation, Et qui est une cellule de 4 personnes, donc c'est pas non plus un truc ultra développé.
Déjà, on peut saluer qu'elle a pas un obscur acronyme avec plus de 8 lettres.
C'est art machin. Ouais. Non, ça c'est bien. Ça a été créé en 2017. Donc on sent l'impulsion macronienne du concept. Et en fait, c'est pour aider les acteurs de la French Tech, justement dans ce flou juridique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que mon idée, elle va avoir une application concrète ou est-ce que je vais être contré immédiatement par des problématiques réglementaires, de droit social, de réglementation? Alors, ça a beaucoup touché les boîtes dans l'agritech, là où il y a beaucoup d'innovation, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. On l'a vu avec les manifestations des agriculteurs, mais pas que, dans le droit social et ainsi de suite. Et il y a eu, en tout et pour tout, 450 demande depuis 2017, donc c'est pas beaucoup, sans doute aussi parce que la plateforme est un tout petit peu confidentielle, parce que vous voyez, ça fait comme 8 ans qu'elle existe et personne la connaît.
Parlons-en, France expérimentation. En gros, leur boulot, c'est quand même d'aider nos startups à rester en France. On va en reparler.
Exactement.
Tu as Alexandre Leng de Tudigo et Johan Lopez de Snowball dans quelques minutes. Merci Géraldine pour cette revue de presse. On vous retrouve dans 10 minutes justement avec Johan et Alexandre. On parlera d'une de nos startups, Blablacar, qui est rentable. Ça y est. Mais pour l'heure, on passe une tête chez nos traders pour savoir que faire sur les marchés aujourd'hui.
Tout pour investir. Le match des traders.
Et aujourd'hui, c'est Andrea Tueni de chez Saxo Bank et Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading avec nous. Bonjour messieurs. On va démarrer, puisque c'est jeudi, par notre bordelais. Mathieu, dites-nous ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, sachant qu'on est quand même sur un CAC assez indécis ce matin.
Oui, tout à fait. Et indécis ce matin, mais indécis depuis environ 2 semaines même, puisque on a latéralisé pendant pas mal de séances. On a eu un petit warning qui s'est allumé mardi avec la baisse. Une digestion hier qui s'est passée dans de bonnes conditions et puis un redémarrage aujourd'hui avec toujours la solidité de l'économie américaine qui continue de susciter des interrogations concernant la baisse de taux à venir. On est vraiment dans une situation où good news is bad news. Ce qui est les bonnes données économiques sont un problème pour les baisses de taux à venir. Et on l'a vu clairement mardi, puisque la baisse s'est amplifiée avec l'ISM mardi après-midi, supérieure aux attentes. Hier, on a eu l'ADP avec des créations d'emplois supérieures aux attentes et des salaires supérieurs également à ce qui était attendu. On aura demain donc une statistique qui va être scrutée de près dans le contexte actuel, les créations d'emplois donc là mensuelles donc aux États-Unis aussi. Donc on a des marchés oui qui sont indécis mais qui restent toujours du bon côté avec sur le CAC un petit pivot à très court terme qui se situe autour des 8100 points. Moi je considère que tant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. Et c'est pour ça que durant cette phase, durant ce petit repli que nous avons eu, moi je n'ai pas changé du tout de stratégie, je continue d'acheter, notamment là par exemple à très court terme vers 8145-55, c'est un niveau qui a fonctionné ce matin. Si on y retourne, on peut tenter un achat. Alors c'est pas forcément pour viser des amplitudes très importantes. La volatilité intraday est quand même extrêmement faible. Donc si j'arrive à acheter vers 8145-55, ça va être pour viser 8200, éventuellement 8220, dans une optique à moyen long terme. Mais là, on en parle avec Andrea depuis des semaines. Ce que je surveille, c'est 7850, ce niveau-là. Mais pour l'instant, on en reste toujours très éloigné. Donc pour l'instant, un petit warning s'est allumé mardi, mais il est en passe de s'éteindre. Et on a des marchés qui se comportent bien, avec sur des valeurs quelques opportunités, de valeurs notamment qui sont en retard. Là, je ne parle pas forcément de valeurs du CAC, mais on a des valeurs secondaires qui amorcent un petit quelque chose, un petit rattrapage. Donc il y a des petites choses à faire. Sur l'indice, pas tellement, mais sur les actions, il y a des petites opportunités.
Petite opportunité que vous identifiez également, Andrea, Saxo Bank.
C'est vrai qu'on a un marché qui a été très tourné sur la macroéconomie cette semaine. Alors bon, une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que on a quand même globalement des chiffres qui ont dominé la tendance et qui ont dicté, on va dire, une semaine pour le moment en deux temps. Une première partie de la semaine, c'est vrai, comme Mathieu l'a dit, qui a été heurtée avec un ISM manufacturier et une composante de prix qui a un peu surpris le marché. On a commencé à avoir un repricing des anticipations autour de la politique monétaire de la Fed et de la baisse des taux à venir. On a vu d'ailleurs un taux des taux qui ont fortement bougé avec des rendements qui sont montés, notamment le 10 ans américain qui est passé au-dessus de sa résistance à 4,35, qui peut aller viser les 4,50. Et là, c'est vrai qu'on a une détente depuis avec un ISM service et une composante de prix, encore une fois, cette fois-ci pour le coup beaucoup plus faible et qui a rassuré, on va dire, le marché. un discours de Powell pas vraiment marqué hier, plutôt neutre. Et puis demain, le rapport sur l'emploi américain qui va certainement avoir un impact très fort sur le marché. Donc aujourd'hui, nous, on s'attend à un marché beaucoup moins volatile dans l'attente justement du rapport sur l'emploi demain qui pourrait donner un petit peu plus de force au mouvement et aux anticipations autour, encore une fois, de la politique monétaire de la Fed. Donc pour le moment, sur le marché, je rejoins Mathieu. On a un niveau pivot, un premier niveau de support qui a tenu jusqu'à présent sur le CAC à 8100. Au-delà, on a une zone à 8045 qui peut servir de zone d'appui, et les niveaux d'alerte, le premier, si on vient chercher un premier niveau d'alerte, on peut aller chercher 7975, mais le vrai niveau d'alerte, il est en dessous, vers 7850. C'est ces niveaux-là, c'est ces seuils-là qu'il faut surveiller pour avoir un vrai changement de tendance. Sinon, pour le moment, avec le rattrapage qui s'est opéré hier et qui continue ce matin, on revient dans cette logique de latéralisation, mais toujours avec un focus très important sur la macroéconomie et les chiffres de demain. On a une baisse aussi du VIX, on était repassé au-dessus de 15, là on est rebaissé sur le VIX, donc ça veut dire que la volatilité a rebaissé d'un cran, ce qui est un peu rassurant après un contexte un petit peu plus heurté et stressé en début de semaine. Donc on revient sur une dynamique un peu plus calme, mais on est très attentif encore une fois à la macroéconomie, sachant encore une fois qu'il y a eu un gros mouvement sur les taux et du un peu de stress autour des anticipations de baisse des taux de la part de la Fed.
Bah oui, la hausse continue des marchés qui laisse les investisseurs perplexes, et finalement la question c'est, et si les taux montaient? Et si les taux montaient, eh bien on répondra à cette question dans une quinzaine de minutes avec Franklin Pichard. Enfin, cette question, en tout cas, on posera cette hypothèse sur la table. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Andrea, pour ce décryptage de la journée. Bonne séance sur les marchés et à très vite. C'est l'heure de continuer de parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur et investisseuse individuelle.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et l'équipe du jeudi qui est réunie pour vous servir, Géraldine Métifeux qui est toujours parmi nous. Rebonjour Géraldine.
Rebonjour Lorraine.
Alter Egal, rejoint par notre autre bordelais, Alexandre Leng. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Co-fondateur de Twigo et Johan Lopez de l'équipe de Snowball. Bonjour Johan.
Bonjour Lorraine.
On va parler de ce que vous avez lu pendant les 12 dernières heures nocturnes, cher Johan. C'est la lettre annuelle de Stripe.
Oui.
Que vous avez décortiqué pour nous, un peu comme on décortiquerait la lettre de Larry Fink à ses actionnaires. Eh bien, vous venez décrypter celle de Stripe. Rappelez ou apprenez-nous qui est Stripe et pourquoi on s'intéresse à cette lettre.
Ouais, alors Stripe, c'est, je pense que si quelqu'un a acheté quelque chose sur Internet ces derniers jours, bah, sûrement a utilisé Stripe. En fait, c'est une entreprise américaine et irlandaise, si je ne me trompe pas, ouais, qui a donc lancé un outil de paiement pour les startups essentiellement, mais pas que, donc aussi des grands groupes. Et donc, eux, ils connaissent très bien l'économie parce que, bah, du coup, il y a énormément de flux qui passent par Stripe. Et donc, chaque année, ils font une petite lettre où ils vont parler des tendances de l'année. Ils parlent évidemment de Stripe. Alors là, j'ai retenu un peu 4 trucs, on va dire. Le premier, c'est que Stripe nous dit qu'il y a encore beaucoup de startups qui se lancent malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de fonds VC. Donc, il y a 100 000 startups, je crois, qui sont lancées sur Stripe. Alors, ils ont leur données Stripe, ce n'est pas des données globales.
C'est des données mondiales, néanmoins.
Mondiales de Stripe, exactement. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ces boîtes cherchent beaucoup plus la rentabilité. C'est-à-dire que des boîtes lancées en 2022 ont 60% de plus de chances de collecter des fonds la première année que des boîtes lancées en 2019. Donc ça, c'est la première chose, ça montre qu'il y a une vraie recherche de rentabilité. Le deuxième, c'est la tendance, c'est l'énergie verte. On en parle beaucoup, donc ils nous disent qu'il y a eu 444 gigawatts d'énergie solaire qui a été donc créée en 2023, donc ce qui est plus que l'énergie nucléaire disponible sur Terre, donc c'est gigantesque. Et rien qu'aux États-Unis, la moitié des capacités qui ont été créées, c'est du solaire. Donc il y a vraiment une énorme courbe d'apprentissage en fait sur le solaire et des chutes de coûts. Donc ça, c'est encore le truc intéressant. Celui que je trouve vraiment assez fascinant, je le garde pour la fin peut-être. Le deuxième, c'est la robotique.
Le troisième du coup, si je vous souviens.
Ouais, là, c'est le troisième. Ouais. Le quatrième.
La robotique.
Exactement.
Donc, il a vraiment lu toute la nuit.
Un peu fatigué là, avec la pluie et tout. Non, la robotique, oui. Alors la robotique, en fait, on a une nouvelle ère de la robotique en ce moment avec...
Notamment Apple qui s'y lance.
Ah ouais, justement, j'allais le dire. Oh là
là. Moi aussi, je l'ai lu, c'est grâce à cette lettre.
Non, mais en fait, oui, il nous parle d'une nouvelle ère de la robotique avec en fait l'IA qui est en train de propulser aussi la robotique. Alors, pendant longtemps, c'était vraiment des gadgets. Je parle de la robotique grand public, hein, pas dans l'industrie, évidemment. Ça s'est connu depuis longtemps qu'il y a eu une explosion de la robotique. Mais là, on parle de. Voilà, il y a en 1998, je crois, il y avait le petit robot Aibo, on se souvient de ça, c'était vraiment des petits gadgets. Et aujourd'hui,
moi,
il y a vraiment.
Je me souviens, Johan.
Aibo, c'est fascinant. J'en voulais un, moi. Donc, 3000 euros, je crois, qui coûtait $3000. Bref. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une explosion de cette robotique et qui fait que, en fait, on va avoir de plus en plus de robots pénétrés dans notre quotidien, comme Apple, potentiellement. Donc ça, c'est vraiment un truc à observer.
Et la quatrième
que j'adore,
c'est à son comble.
Ouais, c'est ce qu'on appelle donc l'abondance de la beauté. Donc ils nous disent que grâce à l'IA,
l'abondance de la beauté.
Ouais, c'est beau, hein, c'est une nouvelle tendance. Alors ils nous disent que pour, c'est difficile de définir qu'est-ce qui est beau ou pas. Et eux, ils nous parlent de deux choses. Ils nous parlent de, ça nécessite donc des capacités humaines, donc un capital humain. Et il y a une notion de coût. Donc en fait, voilà, ils nous disent par exemple qu'en France, on a du très bon pain parce que, ben en fait, on a un réseau de talents qui est très concentré. Donc le pain est meilleur en France qu'en Californie parce qu'ils n'ont pas le même réseau. Et ils nous parlent des immeubles qui ont des voilà, qui sont assez moches aujourd'hui comparés aux immeubles voilà haussmanniens du début du siècle du 20e.
Peut-être qu'ils ont un meilleur DPE les immeubles moches.
Peut-être, oui, en effet, que les. Ouais, c'est vrai que c'est pas des. Mais bon, à creuser avec. Ouais, pas sûr. Et donc ils nous disent que voilà, grâce à l'IA, il va y avoir sûrement une nouvelle abondance de ça. Par exemple, il y a une start-up qui mêle robotique et beauté. Donc, qui utilise des robots pour créer des sculptures, un peu comme de l'ère de la Renaissance. Et donc, c'est assez fascinant, voilà, cette nouvelle ère de l'abondance.
Bon, voilà, le regard de Stripe sur les tendances 2024, la rentabilité, l'énergie verte, la robotique et l'abondance de beauté. Géraldine, votre réaction ?
Je suis fascinée par l'abondance de beauté. je suis fascinée par ça. J'ai hâte de voir les déploiements, de comment ça va être déployé. Sur le constat sur la rentabilité, je pense qu'on le fait assez régulièrement ici. Et ça, je pense que c'est vraiment bien parce que, notamment à une heure où certains veulent démocratiser le private equity, je pense que d'axer sur la rentabilité, ça évitera sans doute à Madame Michu de se retrouver un peu comme une débile mentale avec le truc qui sert à rien dans 5 ans, quoi. Donc ça, c'est chouette que ce soit une vraie ligne.
Je note la chute du champ lexical de cette émission avec vous le jeudi.
De Madame Michu.
Vous trois, là.
Non.
Oui,
c'est, ouais, c'est, nous aussi, on est dans l'abondance de la beauté. On n'a que 3 mots dans notre vocabulaire, on fait ce qu'on peut. Et donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Sur la green tech, ça paraît aussi aller dans le bon sens. C'est amusant de noter, après Stripe a l'air fondement US, mais amusant de noter que c'est sur les US notamment que ça se développe. En même temps, le solaire à Paris depuis 6 mois, ce serait très complexe.
Il y a d'autres endroits de France où il y a du soleil.
Sans doute.
À Bordeaux.
On espère.
À Bordeaux
peut-être.
Ou à Bordeaux, il pleut.
Oui, il pleut beaucoup quand même.
Non, mais nous aussi, il va faire 25 000. Il pleut. Et donc voilà. Et sur l'abondance de la beauté, je suis encore un peu perplexe, mais j'ai hâte de voir comment ça peut donner du business et comment on va pas rentrer à nouveau. Peut-être aussi, c'est le risque de rentrer dans des stéréotypes de beauté parce que ça veut dire que il y a plus qu'une seule opinion. Quoi. C'est un peu comme les Américains qui ont les mêmes dents. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, tout ça, c'est aussi lié au développement de l'IA, hein, parce que finalement, le développement des robots, il est lié à la capacité des robots à pouvoir faire de plus en plus de tâches de manière autonome. Et ça, c'est complètement concomitant au développement de l'IA. Et on le rappelle, l'intelligence artificielle, ça va générer des décisions, mais à partir finalement d'une base de données. Donc, clairement, on le voit, et il y avait eu un scandale assez récemment d'ailleurs, où.
Gemini.
Voilà, avec Gemini, et où, en faisant. On voyait que l'IA était pleine de stéréotypes, parce que, typiquement, ils associaient certaines catégories de population, même couleur de peau, à la banlieue. Voilà. Je pense qu'il y a. Ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire assez attention. Moi, ce que je retiens aussi de cette lettre à Stripe, c'est qu'ils arrivent quand même à dégager des tendances sur un peu tout. Et pourquoi ? Parce que Stripe, aujourd'hui, hein, c'est une solution de paiement, mais qui est au cœur d'énormément de choses. De l'e-commerce, bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont passé le cap des 1000 milliards.
1 milliard. 1% du GDP.
Voilà. Exactement, du PIB mondial. 1% du PIB mondial. C'est énorme.
Qui transite
par Stripe. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, vous avez le commerce électronique, vous avez également...
C'est une personne sur 10 dans le monde qui utilise, en le sachant ou pas, Stripe.
Ouais, les transactions, par exemple, nous, en finance, en investissement, on utilise Stripe. En fait, c'est nos tuyaux. C'est des tuyaux de paiement. C'est 25% de croissance par rapport à 2022 sur un marché du commerce électronique qui est en croissance que de 7%. Enfin, c'est une bonne croissance, mais ils ont beaucoup de place et donc ça leur donne vraiment cette vision sur l'ensemble de la société et des tendances.
Il nous reste quelques minutes. Je voudrais revenir sur votre premier point retenu, Johan, la rentabilité des entreprises qui sont rentables plus vite, enfin celles qui ne meurent pas du coup. Ça nous amène à une de nos plus vieilles startups, plus vieille licorne, Blablacar, qui est enfin rentable, Alexandre.
Et un de nos plus vieux fondateurs de la tech française, Frédéric Mazella, qui il y a 18 ans, effectivement, a créé Blablacar, un service vraiment connu de tous, hein, du grand public. 80 millions de passagers en 2023, 19 pays, 100 millions de membres, mais une entreprise qui pendant 16 ans n'était pas rentable. incroyable et qui d'ailleurs a été bien financé par le private equity, les investisseurs qui ont apporté près d'un demi-milliard à Blablacar pour financer sa croissance. Et puis les deux dernières années, rationalisation oblige, l'entreprise est devenue rentable. Et donc là, ça fait 24 mois que Blablacar est rentable, un chiffre d'affaires en 2023 de 253 millions d'euros en croissance de 29% par rapport à l'année dernière, donc croissance et rentabilité. Voilà, c'est une licorne, je pense qu'on peut en être fier, mais la leçon, voilà, je pense qu'il faut être prudent avec cette notion de licorne. La licorne, c'est la valorisation d'un milliard, on le voit avec les Mistral par exemple, les Vercors, mais c'est pas forcément
épiquement depuis
épiquement et d'autres, ça reflète pas toujours en fait la valeur réelle de l'entreprise. Donc attention avec ce statut de licorne. Là, on va commencer à y arriver parce que Blablacar va commencer à dégager finalement de la rentabilité qui va permettre de valoriser au réel cette entreprise-là. Voilà, on passe quand même d'une ère de, comme le disait Johan, de la croissance à tout prix, de la croissance avant tout, à une ère où maintenant croissance et rentabilité doivent aller de pair. Ce qui a d'ailleurs permis à Blablacar de cette fois-ci lever 100 millions d'euros de dettes pour financer des acquisitions, pour financer son BFR auprès cette fois-ci de banquiers, ce qui témoigne aussi de la confiance de ces acteurs historiques envers certaines boîtes de la tech, en tout cas celles qui ont fait le pas de se dire qu'il fallait maintenant devenir rentable et pas juste grandir.
Mais après, il y a des circonstances aussi, je pense, pour Blablacar. C'est-à-dire que peut-être qu'à saison, ils étaient peut-être un tout petit peu en avance sur leur temps du partage, etc. Et sans doute que le choc inflationniste qu'on a vécu de façon plus ou moins violente, selon nos statuts, ça a dû sans doute aussi inciter certains à se dire que le train, l'avion, le machin, etc., Blablacar, c'est un bon modèle aussi pour pouvoir se déplacer. C'est en plus relativement écolo-bobo, ça passe pas mal, quoi. C'est et pas trop cher, et écolo, c'est...
Et ça marche surtout pas que dans les grandes villes.
Ça oui, c'est ça, c'est que vous reliez...
C'est un vrai service national. Reliez,
voilà, ouais. Si on parle pour la France, effectivement, moi j'ai une collaboratrice qui faisait pas mal du Blablacar il y a 2 ans, 3 ans, donc... J'avais découvert ça comme ça.
Ils ont bénéficié de la tendance de fond environnementale, la prise de conscience des enjeux climatiques.
Et le coût, je pense quand même.
Le coût, effectivement, le coût de la vie, le coût du transport, le coût de la SNCF, que j'utilise tous les jours.
Le coût de l'essence, hein, parce que celui qui a sa voiture, il est content de pouvoir aussi partager.
Et puis, nos grèves, les grèves, qui ont chaque fois été des boosters.
Merci, merci aux grèves de Blablacar.
La SNCF, autre sponsor de Blablacar. Sponsor financier.
Et qui ne dit pas son nom.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine Métifeux de l'équipe Alter Egal. Merci Johan Lopez. Qu'est-ce qu'on lit sur Snowball cette semaine qui retient particulièrement votre œil de rédacteur en chef?
Cette semaine, qu'est-ce qu'on lit sur... on va sûrement parler d'Apple et de la robotique, je pense. C'est un sujet qui me passionne, donc je pense que dimanche on parle de ça.
À retrouver sur le site Snowball. Et puis Alexandre, vous êtes notre coach tout à l'heure. On va se demander si on peut concilier impact et rentabilité. On va parler de carbone en tant qu'investisseur.
Ouais, on va en parler. Pourquoi on va en parler? Parce que la semaine dernière, c'était Change Now, qui est un gros événement international de l'impact, où se retrouvent financeurs, start-up, grands groupes.
N'en parlez pas trop, parce que sinon, on va plus de temps après, Alexandre.
Et aussi parce que ça intéresse les Français. Étude de Morgan Stanley, 84% des femmes intéressées par l'investissement durable, 67% des hommes. Chez Tudigo, c'est 3/4 de nos investisseurs qui l'incluent dans leur thèse d'investissement. Donc voilà, donc c'est un sujet qui intéresse et qui est important. Et puis on va le voir d'avenir.
Voilà, ce sera le coaching du jour dans un gros, gros quart d'heure. Vous restez avec nous. Entre-temps, votre petite dose d'économie. On va parler d'actionnaires salariés. Visiblement, il est en baisse. Est-ce une nouvelle grave? On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Vous prendrez bien une petite dose d'actionnariat salarié, n'est-ce pas? Bonjour Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Lorraine.
Cet actionnariat salarié, il recule en Europe dans les grandes entreprises. C'est sur elles qu'on s'arrête. On recense 6,85 millions d'actionnaires salariés. Le chiffre est donc en baisse horizon 10 ans.
Oui, si on regarde l'actionnariat des grandes entreprises européennes, les salariés détiennent en moyenne 3% du capital. Il y a 12 ans exactement, on était à 3,1%, donc c'est effectivement un recul. Alors, consolation pour nous, la France fait mieux que la moyenne européenne, on est à 85%, mais ça reste très limité par rapport à l'objectif du gouvernement, qui est d'atteindre 10% à horizon 2030. Et on peut dire aujourd'hui, pour résumer, qu'un salarié sur 5 est actionnaire de son entreprise, contre 1 sur 4 il y a quelques années. Alors, est-ce que c'est regrettable ? Côté pile, effectivement, on peut considérer que c'est regrettable pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une forme de motivation pour les salariés. Si vous avez des actions de votre entreprise, vous allez tout faire pour que le cours de l'action augmente. Donc, vous allez être peut-être plus efficace, aussi plus impliqué dans la gestion de l'entreprise, exactement sur le même principe que ceux qui ont des stock options dans les grandes entreprises. Et ensuite, parce que ça permet d'améliorer la rémunération, c'est aussi l'objectif, dans des proportions qui peuvent être intéressantes. Les entreprises se font toujours tirer l'oreille pour donner des augmentations substantielles parce que les augmentations de salaire, elles sont pérennes. Et si l'entreprise rencontre des difficultés les années suivantes, elle devra quand même augmenter, en tout cas payer le salaire au niveau où il a été augmenté, alors qu'avec l'actionnariat salarié, le cours de l'action va fluctuer en fonction des performances. Et donc, tant mieux pour le salarié si l'action décolle, mais ça peut amener les entreprises à être peut-être un petit peu plus généreuses en matière d'augmentation, entre guillemets, puisque ce ne sont pas vraiment des augmentations.
Mais, car il y a un mais, du côté des syndicats, ce recul n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que, globalement, les syndicats ne sont pas très favorables à cet actionnariat salarié.
Oui, et tout dépend effectivement de la manière dont c'est mis en place. Il ne faut pas que cet actionnariat salarié, ça remplace totalement le salaire, ou en tout cas les augmentations de salaire. Et c'est justement le point des syndicats. Mmh. Il ne faut pas que ça se substitue aux augmentations de salaire, et particulièrement à celles qui sont attribuées au mérite, parce que le salarié lambda, et ça c'est leur discours, n'a pas à prendre tous les risques. Et puis, l'actionnariat salarié, c'est intéressant d'un point de vue d'épargne, et on en parle beaucoup dans cette émission, mais ça ne rentre pas dans le calcul des avantages des prestations sociales. Si vous perdez votre emploi, le calcul de votre chômage, de l'aide au retour à l'emploi, sera basé sur votre salaire, et l'actionnariat salarié, ça ne rentre pas en compte. Alors vous me direz, vous pourrez vendre vos actions, mais ça sera one shot, c'est-à-dire que vous aurez vendu les actions, puis ensuite vous aurez ce qu'on vous donne en matière de prestations sociales, et ça aussi, c'est un point des syndicats. On en parlait tout à l'heure dans les experts, et effectivement, le côté intéressant, c'est le mix des deux, c'est-à-dire trouver un juste équilibre entre les augmentations de salaire collectives, individuelles, et puis l'actionnariat salarié qui peut représenter parfois quelque chose de très intéressant, surtout quand l'entreprise va très très bien.
Surtout sur le long terme.
Et surtout sur le long terme.
Ça pose la question de l'engagement. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur le site BFM Business et aussi sur YouTube si vous voulez participer à la discussion dans l'espace commentaire de YouTube. Dites-nous ce que vous en pensez de cet actionnariat salarié. Nous allons maintenant nous occuper de votre portefeuille. On va se poser une question. Et si les taux montaient ? On va voir ça avec Franklin Pichard.
Tout pour investir. En portefeuille.
Moi non.
Le sentiment de marché de Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Lorraine.
Et oui, ça fait discuter. Et si les taux montaient, est-ce que c'est ce qu'on va avoir ? Vous nous parlez d'abord de la hausse continue des indices, des marchés, qui laisse certains investisseurs perplexes.
Oui, perplexe parce que finalement on a eu des publications, là, on est à peine sorti des publications et on est à l'aube des prochaines. Hein. Le premier trimestre, ça va débuter dans une dizaine de jours maintenant. Et l'éternelle question que l'on se pose chaque trimestre, c'est est-ce qu'ils pourront continuer à être aussi bons que ceux qui ont été dévoilés les trimestres précédents, contre toute attente parfois d'ailleurs. Alors, dans cet environnement, les marchés sont un petit peu perplexes parce que on a des indicateurs économiques, vous venez d'évoquer, on en reparlera certainement là sur les taux, qui suscite un petit peu d'inquiétude. Hein. On a vu une baisse du CAC en début de semaine, c'était la plus forte baisse depuis mi-janvier. On n'avait pas vu ça. On voit des hausses qui sont très très modérées, des volumes qui sont plutôt faibles, des vendeurs à découvert qui finalement n'osent plus trop prendre de position parce que à chaque fois, ils prennent des revers de fortune. Mmh. Donc, on est dans un environnement où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce que la prochaine saison des publications permettra de redonner encore une vigueur supplémentaire pour aller chercher encore des points plus élevés ? C'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Et donc, on se concentre uniquement sur les déclarations de Jerome Powell, les indicateurs macro, l'emploi, la croissance. Maintenant, c'est vrai que les marchés sont... sont plus durs, finalement, que les banquiers centraux. En général, c'est l'inverse. Hein. C'était Powell ou Christine Lagarde qui disaient « on montera les taux ». Les marchés disaient « non, non, vous ne les montrez pas, vous ne pourrez pas ». Et puis, finalement, il est monté. Là, Powell dit « on va baisser les taux ». Et les marchés répondent « non, vous n'allez pas les baisser tant que ça ». Alors, on l'a vu, hein, 6, 5 à 3. Maintenant, on ne parle plus que de 2 ou peut-être pas du tout. Alors, franchir le pas et d'aller jusqu'à dire que les taux remonteront, je pense pas. Il faudrait que tous les indicateurs soient dans la même direction pour les faire monter. On n'en est pas là. On voit quand même des indicateurs aux États-Unis qui montrent un léger fléchissement de l'activité. En revanche, c'est vrai, ce qui peut militer en faveur d'un report de la baisse des taux, ce sont les chiffres des inscriptions au chômage, du chômage, des créations d'emplois, etc., qui restent très dynamiques. Mais tout n'est pas réuni pour, évidemment, monter les taux. Contentons-nous de les baisser moins que prévu, mais pas encore les montées, c'est pas du tout d'actualité, je pense.
Ce qui monte aussi doucement, c'est le VIX, l'indice de volatilité ou de la peur, qui a pris 13% hier, qui était autour de 14,3 la dernière fois que j'ai vérifié ce matin. Bref, qui monte légèrement. Volatilité aussi qu'on voit sur certaines valeurs. Vous vouliez nous parler d'Intel ce matin.
Oui, alors ce VIX, effectivement, qui montre, c'est l'indicateur de peur des marchés. Hein. Ça indique la volatilité et donc le stress en temps réel des investisseurs qui se protègent, qui ne savent pas dans quelle direction aller. Donc, effectivement, on l'a vu bondir violemment. On voit que les investisseurs et les opérateurs ne sont pas sereins. Et ça se traduit par des surréactions. On a vu Intel qui a annoncé une perte sur sa division fonderie et le titre a perdu plus de 8% hier. Et au-delà même d'Intel, ça traduit un petit peu le malaise qu'on a sur l'ensemble du compartiment, des valeurs technologiques, de l'environnement IA, techno et autres, où les investisseurs sont un petit peu à bout de souffle sur ce compartiment et on voit un petit peu des prises de bénéfices et des rotations sectorielles qui commencent à s'opérer pour aller chercher des points supplémentaires sur les indices.
Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu de all-time high sur une valeur tech, donc on n'avait plus l'habitude de ce calme plat.
Oui, on n'avait plus du tout ça et aujourd'hui, non seulement ça commence à se produire, mais certains investisseurs se disent, Intel aujourd'hui, Apple qui est quand même pas dans une situation incroyable depuis des mois en termes de performance, hein, j'entends, Tesla, n'en parlons pas. Donc on voit qu'effectivement aujourd'hui, la mode est en train de changer et les investisseurs font tourner un petit peu leur portefeuille et retour en grâce de secteurs un petit peu délaissés. Oublié depuis quelques mois.
Rotation sectorielle. Je suis obligée de vous poser une question sur le pétrole. À l'heure de ce direct, le WTI est autour de 85,14$, le Brent autour de 89. Qu'est-ce que ça vous fait dire, ce pétrole qui monte doucement mais sûrement depuis quelques séances ?
Alors, ce que ça me fait dire, ma première réaction par rapport à cette situation, et c'est par rapport à l'envolée de Total Energy qui est assez plus haut, qui caracole. Ceux qui veulent jouer cette thématique, je ne le ferai pas à travers, et Dieu sait si j'aime beaucoup le titre Total en termes
Vous aimez sa gouvernance.
De valeur. Mais l'environnement est politique par rapport au pétrole. C'est-à-dire que on a visiblement des niveaux de cours de pétrole qui conviennent un petit peu à tout le monde, aux industriels, aux pays producteurs. Donc, il va pas y avoir de ce côté-là une influence et un impact majeur qui va être marqué. En revanche, les événements géopolitiques sont la raison de cette hausse. Donc, Total est un titre qu'on achète sur des perspectives longues. Si on veut jouer uniquement cette thématique, il faut se tourner vers un ETF pétrole pour jouer. Si on veut jouer, le terme est assez impropre et mal placé, mais un environnement géopolitique qui peut accompagner le pétrole vers les 95$. Personne ne le voit aller au-delà de 95$. Il est dans sa fourchette, 85-95. Le jouer à travers un titre, c'est compliqué. je pense que l'upside, le potentiel de gain est relativement faible, potentiel de correction est plus important. Le jouer de façon très rapide en trading à travers un ETF lié au pétrole, c'est la seule façon de pouvoir utiliser un véhicule d'investissement pour cette thématique.
Bon, Franklin, on est jeudi, on se reverra la semaine prochaine. En conclusion, qu'est-ce que vous allez regarder dans les prochains jours et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux boursicoteurs et boursicoteuses qui nous écoutent ?
Alors, aux investisseurs, je vais leur conseiller, parce que les boursicoteurs, eux, travaillent plutôt les ETF pour faire quelque chose de très très court terme. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelques échéances qui vont être compliquées et analyser et déterminer la politique de Jérôme Powell pour le mois de juin, a priori. Donc, ce que je conseille aux investisseurs, c'est faire un petit peu ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire cette fameuse rotation sectorielle. Il y a deux thématiques qui reviennent, et la thématique du premier trimestre de l'année, c'est cette remontée des problèmes, des tensions géopolitiques. Donc on le voit, l'armement en profite. Il faut repondérer un petit peu les valeurs d'armement, et qui aujourd'hui ne sont plus des valeurs honteuses, puisque il faut se rappeler cet adage qui est « si tu veux la paix, eh bien prépare la guerre ». Eh bien dans cet environnement-là, les Thales, les Rolls-Royce, les Safran, les Rheinmetall ou les Kongsberg sont des bons véhicules qui ont très fortement monté. Mais par rapport aux milliards d'investissements qui doivent encore être faits en Europe, ne serait-ce qu'en Europe, je pense que c'est une bonne idée. Et puis le deuxième retour en grâce, ce sont les énergies renouvelables. On voit le retour en grâce de valeurs comme Neoen, on voit des valeurs comme Voltalia, on voit des valeurs comme Iberdrola, E.ON également. C'est des valeurs qui ont énormément souffert quand il y a eu cette envolée des valeurs vertes, cet engouement qui se surpayait, qui était payé 10 fois trop cher. Elles ont terriblement corrigé. Les ETF, les fonds verts ont pris le bouillon. Aujourd'hui, on est revenu à des niveaux de valorisation normaux. Aujourd'hui, c'est un moment pour se réintéresser à ces valeurs-là. Également, une valeur plus connue, moi que je n'aimais pas spécialement, mais il y a une nouvelle gouvernance qui me fait la voir autrement, Saint-Gobain, qui peut également, pour les investisseurs plus classiques et avec une volonté long terme, qui peut également rentrer en portefeuille.
Saint-Gobain qui vient de s'offrir un groupe canadien, Bailey, que vous avez surveillé ce matin. Merci beaucoup, Franklin Pichard, pour ce sentiment de marché et puis votre regard sur la macro, aussi un petit peu certaines valeurs. On vous retrouvera très prochainement. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site de BFM. Vous étiez en train de parler de Neoen. Et bien justement, Neoen, nous allons en parler avec notre coach Alexandre Leng, puisqu'on va parler de comment concilier impact et rentabilité. Pourquoi l'enjeu climat séduit les investisseurs et pas que les Français. Décortiquage de comment investir quand on est investisseur particulier dans ce secteur. Le climat, l'enjeu climatique. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach du jeudi, c'est Alexandre Leng. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Rebonjour, vous étiez déjà avec nous dans la partie actu. Maintenant, c'est la partie coaching. On va parler de l'enjeu climatique et plus précisément de pourquoi cette thématique climat est intéressante et séduit les investisseurs. On va aussi vous donner une grille d'investissement sur comment investir dans ce très vaste secteur, ces secteurs. Que vous allez nous lister. De quoi on parle quand on parle de l'enjeu climatique ?
On se parle du réchauffement climatique et on se parle en fait derrière de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et des tonnes de CO2 qu'on libère dans l'atmosphère. Si on regarde depuis 1870, plus de 2000 gigatonnes de CO2 ont été rejetées du seul fait des activités humaines. 50% dans l'atmosphère, 50% absorbés par ce qu'on appelle les puits carbone, les puits d'absorption de carbone que sont les océans, les forêts notamment.
La nature.
Nos émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles ont atteint 37 gigatonnes en 2017, 57 gigatonnes en 2022. Donc en fait elles sont montées de plus de 60% entre 1990 et 2022. Donc
Je vous fais, et je vais vous donner une dernière statistique, hein, c'est que les réservoirs naturels, donc les fameux puits de carbone, ils absorbent entre 9,5 et 11 gigatonnes de CO2. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. D'un côté, on émet 57 gigatonnes de CO2, de l'autre, la nature en absorbe 10.
Bon, il n'y a pas 10 000 solutions.
La neutralité carbone. Mmh. Voilà. Il n'y a pas 10 000 solutions. Donc, la France qui vise l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Voilà, 2050, c'est neutralité carbone. Ça veut dire que vraiment, on doit être à l'équilibre entre ce qu'on émet et ce qui est capté. Donc, ça veut dire d'un côté, travailler sur la réduction des émissions et de l'autre, essayer d'augmenter la capacité de ces puits de carbone. Pourquoi est-ce que ça intéresse les investisseurs? Parce que ces objectifs des pays donnent lieu à deux choses. Un, c'est des subventions, hein, notamment, qui viennent subventionner tout ce qui peut permettre cette transition environnementale. Le rapport Pisani-Ferry pointait qu'il fallait investir entre 2 et 3% du PIB jusqu'à 2050, ce qui représente 60 à 80 milliards d'euros par an, pour pouvoir faire cette transition et arriver à cette neutralité carbone. Aujourd'hui, l'Union européenne donne 30 milliards d'euros à la France, ce qui n'est pas encore assez et ce qui vient laisser de la place à un besoin de capitaux privés. Maintenant, ce qui dope également le secteur, c'est les lois.
Et je vous en donne...
La réglementation.
Dope, ou en tout cas, ça donne pas trop le choix.
En tout cas, ça donne pas le choix, exactement. Ça permet de... Ça force les entreprises et puis, par extension, les consommateurs à aller vers cette transition. Quatre exemples, la loi climat et résilience sur la réduction des consommations d'énergie, la création des ZFE, les zones à faible émission en ville, qui viennent booster le développement de l'électrique, naturellement, et de l'hybride. La loi AGEC sur la réduction des emballages à usage unique, qui peut donner lieu à naissance à des startups comme Couvi, qui créent des couverts comestibles. Voilà. Donc ça donne naissance même à des nouvelles startups. La directive CSRD, qui oblige depuis janvier, 50 000 entreprises déjà à publier des rapports extra-financiers.
Ouais.
Et qui nous donne des startups, par exemple, comme Greenly, qui a levé auprès d'investisseurs américains, notamment récemment, 50 millions, un peu plus de 50 millions d'euros. Vous avez également EcoVadis en 2022, qui a levé un demi-milliard d'euros.
EcoVadis qui n'est pas toute jeune.
Qui est pas toute jeune, exactement, voilà, qui est plus une petite start-up, qui est une grosse PME, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui est sur qui permet de générer, de mesurer, les différents indicateurs ESG chez les entreprises. Et voilà, il y en a pléthore comme ça.
On comprend la régulation dans ce secteur, qu'elle soit française ou européenne, c'est plutôt une source de business, en tout cas, en s'y adaptant, on peut lancer des business viables. On va citer quelques entreprises, voilà, qui surfent à la fois, la nécessité et puis qui arrivent à se dérouler, à se développer dans le cadre juridique. On parle de transport, on parle d'alimentation, on parle d'immobilier, on parle d'énergie. Maintenant, avec vous, on va réfléchir en tant qu'investisseur particulier à quoi on doit être vigilant quand on veut investir dans ces différents secteurs pour réussir son investissement et nous aussi, peut-être, avec notre argent. Notre épargne, et bien participer à réduire le carbone.
Ouais, si on veut surfer sur un environnement réglementaire et donc un marché de l'impact de la transition environnementale qui va continuer d'être en très 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 forte croissance, et j'insiste là-dessus, pour les prochaines décennies, parce que je pense que c'est j'allais vous dire 2023 a été l'année de l'investissement dans les green tech, mais en fait je pense que c'est 2020 qui est la décennie de l'investissement dans les green tech et dans les startups de la transition environnementale, et comme vous l'avez dit, ça va du transport à l'alimentation, en passant par les bâtiments. Vraiment, tous les secteurs sont touchés. Il faut regarder effectivement si les boîtes dans lesquelles on va investir ont réellement un impact.
Ça veut dire quoi ? On regarde leur bilan carbone ?
On regarde les bilans carbone, bien sûr. On regarde et on regarde en fait les performances en termes de réduction des émissions. Comparablement à l'industrie dans laquelle évolue l'entreprise. Je dis comparablement à l'industrie parce que même par exemple pour un Vercor, donc qui a réussi à faire une giga levée de fonds pour sa gigafactory, de production de batteries électriques. Vercor par exemple, promet des batteries qui sont plus performantes, 4 à 5 et qui émettent 4 à 5 fois moins de CO2 que les batteries chinoises par exemple. Donc c'est au sein même d'une industrie qui dont l'essence même est d'aller vers cette transition environnementale, il y a
y a des notions de performance de la technologie.
Mais est-ce que le benchmark positif, je veux dire par exemple si on se compare à une entreprise chinoise, c'est que l'entreprise chinoise pollue vraiment beaucoup. Alors oui, on pollue moins, mais l'idée c'est de polluer encore moins que moins.
Bah, moins que moins, parce qu'en fait, plus on est... Comme l'objectif, il est monstrueux. En fait, et il est très très supérieur en réalité à même à nos capacités de production. On va venir être... La réglementation va aller vers de plus en plus d'exigences sur ces différents sujets. Et donc même sur le sujet des batteries électriques qui est au cœur de cette transition, on n'est pas à l'abri qu'il y ait finalement des standards qui soient de plus en plus rigoureux sur le, ne serait-ce que la fabrication de ces batteries et puis les émissions directes, indirectes qui sont générées.
Bon, le bilan carbone, on regarde, ça c'est le premier, comment dire, c'est le thermomètre, on regarde.
Le thermomètre, c'est les performances, voilà. Et ça, c'est connecté à la technologie, donc voilà, on investit dans la transition environnementale, on peut pas passer à côté de la technologie. Alors, il y a des sujets qui sont très low-tech, hein, quand on se parle, par exemple, dans l'alimentation. Vous investissez, on a une entreprise, nous, par exemple, bordelaise, les nouvelles fermes. Alors, ils font de l'aquaponie, ils font des fermes urbaines. On est sur de la low-tech. Vous avez également un marché là qui va être en plein boom hein, sur les 10 prochaines années, qui est le marché des câbles électriques. Au cœur, voilà, on n'est pas sur de la high-tech, on est sur de la low-tech. Maintenant, il y a beaucoup de start-up, pour le coup, qui développent des technologies. On se parlait la semaine dernière des start-up deep-tech, notamment, très très présentes dans le sujet de la transition environnementale. Donc, on regarde, est-ce que la technologie développée par l'entreprise, utilisée par l'entreprise, répond à un réel besoin? Est-ce que c'est game changer? Est-ce que c'est une technologie de rupture qui amène des performances vraiment beaucoup plus importantes, à la fois du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue économique? Parce que c'est, je pense, clé sur ces sujets-là. On va inciter le consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise, à aller vers cette transition, s'il s'y retrouve aussi du point de vue économique. Donc c'est important qu'il y ait les deux. Et puis après, on va regarder le niveau de maturité de la technologie. Le TRL, Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique, c'est une échelle qui va de 1 à 9, 9 étant le plus haut niveau. À partir de 7, on est sur des technologies validées en conditions réelles. Donc si on est investisseur, on se concentre sur tout ce qui est 5, 6 et au-dessus.
Cette grille de lecture de l'investisseur particulier qui veut lui aussi participer au changement, qui veut miser sur la réduction carbone, on regarde, un, l'impact. Deux, vous l'avez souvent utilisé dans votre grille de lecture pour d'autres secteurs, évidemment, la technologie utilisée. Il y a aussi l'adoption, le market fit.
Et oui, bien sûr, parce que en plus sur ces entreprises très technologiques, on va avoir des équipes qui ont un beau produit, qui ont une belle techno, mais est-ce que cette techno répond réellement à un besoin? Et puis est-ce que l'entreprise est capable de trouver les clients et comme les investissements sont conséquents, d'en trouver de plus en plus et derrière d'accélérer. Et donc moi j'appelle ça le product market fit, donc la capacité à faire matcher le produit qu'on a développé, la technologie, et puis son marché, et que je mesure par l'attraction. Donc en fait, la croissance. Est-ce que j'arrive à avoir des clients? Et est-ce que le rythme d'acquisition des clients est en pleine accélération? Parce que lorsque j'investis, j'investis pour accélérer le rythme de développement de l'entreprise.
Alexandre, nous sommes contraints par le temps. Il nous reste une grosse minute. Franklin en parlait il y a quelques minutes dans sa séquence d'avant. L'impact, c'est comme l'IA. Il y a eu beaucoup de valeurs, beaucoup d'entreprises survalorisées. On sait un petit peu la bulle green qu'il y a eu, la bulle verte qu'il y a eu il y a quelques temps. Comment on fait pour ne pas surpayer?
Alors, surpayer, c'est relatif en investissement. Parce que vous investissez sur le long terme et encore plus sur un sujet comme ça. Le sujet, effectivement, il y a une tendance dans l'IA, dans les green tech à ajouter un premium en termes de valorisation et notamment sur celle que tout le monde veut. Je pense que c'est important de rester bien les pieds sur terre et de regarder, certes, si cette valorisation est un peu élevée par rapport à une activité qui serait comparable et pas sur le sujet de la transition environnementale, est-ce que sur un horizon de 5 ans, un horizon de 10 ans, finalement, la valeur générée par l'entreprise, la valeur créée et la valeur de l'entreprise va me permettre de réaliser un multiple. Une valorisation, on la regarde toujours par rapport pas juste à la valorisation d'entrée, mais surtout à la valorisation de sortie. Donc ce qui compte, c'est ce calcul-là. Oui, il y a une inflation sur les multiples de la green tech, mais maintenant, si on mise sur les bons, on a un marché qui, de toute façon, en fait, est colossal et sur lequel la demande est très supérieure à l'offre. Donc, potentiellement, très bon pari.
Voilà. Et la France
place plus qu'émergente des green tech. On peut aussi voir ça comme une raison de s'investir ou en tout cas de regarder particulièrement près ce secteur. Merci beaucoup Alexandre Leng et l'équipe de Tudigo pour ce coaching. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur le site ou l'application de BFM Business d'ici quelques minutes, comme l'ensemble des coachings d'Alexandre et de nos autres coachs. Je vous retrouve juste après une rapide publicité. Ce sera la deuxième partie de Tout pour investir. On va parler d'investir, de se loger, d'emprunter quand on est étudiant. Et oui, on a des bons conseils pour vous. Retrouvez-nous dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.